chapitre 9. Mai touchait à sa fin, amenant les premières journées chaudes de l'été. Après avoir terminé sa leçon d'histoire, Nejdanov sortit dans le jardin et passa de là dans le petit bois de bouleau qui y était attenant. Une partie du bois avait été coupée une quinzaine d'années auparavant, et sur cet emplacement avait poussé un épais taillis de jeunes arbres. Les tiges s'élevaient serrées et droites, semblables à des colonnettes d'un blanc mat d'argent cerclées de ronds grisâtres. Leurs feuilles, toutes petites encore et bien nombreuses, avaient un éclat net et vif, comme si on les eût lavées et enduites de laque. L'herbe printanière dardait ses langues fines et aiguës à travers la couche unie des feuilles mortes, dont le dernier automne avait couvert le sol. Tout le taillis était sillonné d'étroits sentiers. Des merles noirs, au bec jaune, avec un brusque cri d'effroi, traversaient à ras de terre ces petits chemins et se précipitaient à corps perdu dans le fourré. Après une demi-heure de promenade, Nejdanov s'assit enfin sur une souche d'arbres coupés, entourée de vieux copeaux noircis qui gisaient là en tas, comme ils étaient tombés sous le coup de la hache. Bien des fois la neige les avait recouverts, puis avait fondu, au printemps, sans que personne songeât à les déranger. Nejdanov, assis, tournait le dos à une muraille serrée de jeunes bouleaux, dont l'ombre courte et forte s'étendait en bandes le long de la lisière. Il ne songeait à rien. Il se livrait tout entier à cette impression particulière que fait éprouver le printemps et à laquelle, dans un cœur jeune ou vieux, se mêle toujours je ne sais quelle mélancolie. La mélancolie agitée de l'attente dans le cœur du jeune homme, l'immuable mélancolie du regret dans le cœur du vieillard. Tout à coup, Nejdanov entendit un bruit de pas qui se rapprochait. Ce n'était pas un homme seul qui marchait. Ce n'était pas un paysan chaussé de souliers d'écorce ou de lourdes bottes. Ce n'était pas non plus une paysanne aux pieds nus. On aurait dit que deux personnes s'avançaient d'un pas mesuré, sans se hâter. Une robe de femme faisait un léger frou-frou. Tout à coup, une voix sourde, une voix d'homme se fit entendre. « Alors, c'est votre dernier mot? Jamais ?»« Jamais !» reprit une voix féminine qui ne parut pas inconnue à Nejdanov, et une seconde après, à l'angle du sentier qui contournait en cet endroit le jeune taillis, apparut Marianne en compagnie d'un homme au teint basané, aux yeux noirs, que Nejdanov n'avait pas vu jusqu'alors. À la vue du jeune homme, ils s'arrêtèrent tous deux comme pétrifiés, et celui-ci fut si étonné de leur apparition qu'il oublia même de se lever de la souche sur laquelle il était assis. Marianne rougit jusqu'à la racine des cheveux, mais fit sur-le-champ un sourire de mépris. À qui s'adressait ce sourire? Était-ce à elle-même pour avoir rougi, ou bien à Nejdanov? Son compagnon fronça ses épais sourcils. Il y eut comme une lueur dans le blanc jaunâtre de ses yeux inquiets. Ensuite, il échangea un regard avec Marianne, et tous deux, tournant le dos à Nejdanov, s'en allèrent silencieux, sans presser le pas, pendant qu'il les suivait d'un regard étonné. Au bout d'une demi-heure, il revint à la maison dans sa chambre, et lorsque, appelé par les beuglements du gong, il entra dans le salon, il y trouva ce même inconnu basané qu'il avait rencontré dans le petit bois. Sipiagin lui amena Nejdanov et présenta le nouveau venu comme son beau-frère, le frère de Valentine Mikhailovna, Serge Mikhailovitch Markelov. « Je vous prie, messieurs, de vous entendre et de vous aimer. » s'écria Sipiagin avec le sourire majestueusement affable et pourtant distrait qui lui était familier. Markelov fit un salut silencieux, et Nejdanov le lui rendit. Quant à Sipiagin, jetant tant soit peu en arrière sa petite tête et haussant les épaules, il s'éloigna comme s'il voulait dire « Je vous ai présenté l'un à l'autre, maintenant que vous vous entendiez et vous aimiez ou non, cela m'est parfaitement indifférent. » Valentine s'approcha à l'heure du couple demeuré immobile, présenta de rechef les deux hommes l'un à l'autre, et s'adressa à son frère avec cette expression caressante et lumineuse qu'elle pouvait évoquer à son gré dans ses beaux yeux. « Eh bien, cher Serge, tu nous oublies tout à fait. Tu n'es pas même venu pour la fête de Kolia. Est-ce que tu as tant d'affaires ?»« Il est en train d'établir de nouveaux règlements avec ses paysans, » dit-elle à Nejdanov. « C'est très original. » Il leur donne de tout les trois quarts, et ne garde qu'un quart pour lui, et encore trouve-t-il qu'il s'en réserve trop. Ma sœur aime la plaisanterie, dit à son tour Markelov à Nejdanov. Mais je conviens avec elle que, pour soi tout seul, se réserver le quart de ce qui appartient à 100 personnes, c'est véritablement trop. Et vous, Alexis Dmitritch, avez-vous remarqué que j'aime la plaisanterie? Demanda Madame Sipiagine avec la même douceur câline dans le regard et dans la voix. Nejdanov ne trouva point de réponse, et au même instant on annonça l'arrivée de Kalomoïtsev. La maîtresse du logis alla au-devant de lui, et quelques minutes plus tard un domestique apparut, et d'une voix solennelle annonça que le dîner était prêt. Pendant le dîner, Nejdanov ne cessa de regarder malgré lui Marianne et Markelov. Ils étaient placés l'un près de l'autre, tous deux les yeux baissés et les lèvres pincées, avec une expression sombre et sévère, presque irritée. Nejdanov se demandait comment il se faisait que Markelov fût le frère de Madame Sipiagine. Il y avait si peu de ressemblance entre eux. Tous les deux, il est vrai, avaient la peau basanée. Mais le ton mat du visage, des mains et des épaules était précisément une des perfections de la beauté de Madame Sipiagine, tandis que chez son frère, le même ton avait tourné à ce noir que les gens polis nomment couleur de bronze, mais qui, pour un œil russe, rappelle la couleur tige de botte. Markelov avait les cheveux crépus, le nez quelque peu recourbé, les lèvres fortes, les joues creuses, le corps efflanqué, les mains nerveuses. Tout son corps était sec et nerveux. Il parlait d'une voix cuivrée, âpre et saccadée. Regard somnolent, air morose, il avait tout ce qui caractérise un bilieux. Il mangeait peu, roulait des boulettes de mie de pain et jetait de temps à autre un coup d'œil sur Kalomoïtsev. Celui-ci venait d'arriver de la ville, où il avait vu le gouverneur à propos d'une affaire désagréable pour lui, affaire sur laquelle d'ailleurs il gardait un silence discret, tout en babillant comme une pie. Sipiagine, comme à l'ordinaire, lui tirait la bride quand il s'emballait un peu trop. Mais il riait fort de ses anecdotes et de ses bons mots, tout en le traitant d'affreux réactionnaire. Kalomoïtsev raconta, entre autres choses, quelle parfaite jouissance il avait éprouvée en apprenant comment les paysans, oui, les simples moujiks, appellent les avocats, aboyeurs. Aboyeurs, répéta-t-il avec ravissement. Ce peuple russe est délicieux. Il raconta encore comment, pendant une visite qu'il avait faite à une école populaire, il avait demandé aux élèves ce que voulait dire caméléopard. Et comme personne ne pouvait répondre à sa question, pas même le maître d'école, il avait posé une seconde question. Qu'est-ce qu'un babouin? En ayant soin de citer le vers de Kemnitzer, l'imbécile babouin portraitiste des fauves. Et personne non plus n'avait pu répondre. Et voilà, conclut-il, à quoi servent vos écoles populaires. Mais permettez, fit observer Madame Sipiagine, je ne sais pas moi-même ce que c'est que ces bêtes-là. Oh, madame, s'écria Kalomoïtsev, vous n'avez nullement besoin de savoir ces choses. Et pourquoi donc le peuple en a-t-il besoin? Parce qu'il ferait mieux de connaître un babouin ou un caméléopard qu'un Proudhon ou un Adam Smith quelconque. Mais ici, de nouveau, Sipiagine remit Kalomoïtsev à sa place, en déclarant qu'Adam Smith était une des lumières de l'esprit humain, que l'on devait sucer ses principes. Il se versa un verre de Château d'Yquem avec le lait. Il approcha le verre de son nez et le flaira maternel. Il vida son verre. Kalomoïtsev en fit autant et jura ses grands dieux que le vin était exquis. Markelov ne prêtait pas grande attention aux élucubrations du gentilhomme de la chambre, mais à deux reprises, il regarda Nejdanov d'un air tout singulier, et une boulette de pain qu'il avait lancée au plafond faillit tomber tout droit sur le nez de l'orateur. Sipiagine s'occupait peu de son beau-frère. Madame Sipiagine non plus ne causait pas avec lui. Tous les deux, évidemment, considéraient Markelov comme un original qu'il fallait éviter d'agacer. Après le dîner, Markelov alla fumer sa pipe dans la salle de billard. Nejdanov retourna dans sa chambre. Dans le corridor, il se heurta presque à Marianne. Il essaya de l'éviter, mais elle l'arrêta d'un brusque mouvement de la main. « Monsieur Nejdanov, lui dit-elle d'une voix mal assurée, en ce moment, ce que vous pensez de moi ne doit pas m'importer beaucoup. Pourtant, je crois, elle cherche un mot, je crois opportun de vous dire que ce matin, quand vous m'avez vu dans le bois avec M. Markelov, vous vous êtes probablement demandé, n'est-il pas vrai, pourquoi nous avons eu l'air troublé et pourquoi nous étions là comme à un rendez-vous. En effet, commença Nechtanoff, il m'a paru un peu étrange que Marianne l'interrompit. Monsieur Markelov, dit-elle, me faisait une proposition de mariage, et je lui ai dit non. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Là-dessus, je vous souhaite le bonsoir. Et maintenant, pensez de moi ce qu'il vous plaira. » Elle se retourna brusquement et traversa le corridor à pas pressés. Nechtanoff, rentré dans sa chambre, s'assit devant la fenêtre tout songeur. Quelle était cette étrange fille? Pourquoi cette démarche bizarre? Pourquoi cet accès de franchise qu'il n'avait pas réclamé? Était-ce désir de se singulariser, ou amour de la phrase, ou orgueil? Plus probablement, c'était de l'orgueil. Elle ne voulait pas supporter le moindre soupçon. Elle ne voulait pas accepter que l'on portât sur elle un faux jugement. Singulière fille. Ainsi songeait Nechtanoff. Et pendant ce temps, sur la terrasse, on parlait de lui. Il entendait parfaitement toutes les paroles qu'on prononçait. « Mon nez me dit, » affirmait Kalomeitsev, « mon nez me dit que c'est un rouge. » Autrefois, quand j'étais en mission spéciale auprès du général gouverneur de Moscou avec Ladislas, j'ai eu occasion d'avoir affaire à ces messieurs, les Rouges, et aussi aux Raskolniks. J'avais un flair supérieur pour les découvrir. Kalomeitsev, à ce propos, raconta comment un jour, dans les environs de Moscou, il avait attrapé, par le talon, un vieux Raskolnik chez qui il était tombé à l'improviste avec la police, et qui avait failli sauter par la fenêtre de son isba. Jusqu'à ce moment-là, il était resté assis sur son banc, ne voyant rien. Kalomeitsev oubliait d'ajouter que ce même vieillard, conduit en prison, avait refusé toute nourriture et s'était laissé mourir de faim. « Quant à votre nouveau professeur, continua le zélé gentilhomme, c'est un rouge, positivement. Avez-vous remarqué qu'il ne salue jamais le premier ?»« Mais pourquoi saluerait-il le premier ?» objecta Madame Sipiagine. « Moi, au contraire, je trouve cela très bien de sa part. »« Je suis un hôte dans la maison où il sert. » s'écria Kalomeitsev, « oui, oui, où il sert pour de l'argent, comme un salarié. Donc je suis son supérieur, et c'est son devoir de me saluer le premier. » « Vous êtes bien exigeant, mon très aimable ami, » intervint Sipiagine en appuyant sur le mot « très ». Toutes ces idées, permettez-moi de le dire, m'ont l'air d'être extrêmement arriéré. J'ai acheté ses services, son travail, mais il est resté un homme libre. « Il ne sent pas le frein, » reprit Kalomeitsev. « Ces rouges sont tous les mêmes. Encore une fois, mon flair ne me trompe jamais. Sur ce point, je ne connais que Ladislas qui puisse rivaliser avec moi. Si ce petit professeur m'était tombé entre les mains, c'est moi qui l'aurais secoué. Ah, comme je vous l'aurais secoué! Il aurait chanté une autre gamme, et comme il aurait mis chapeau bas devant moi, vous auriez vu, c'eût été un vrai charme. » Mauvais fanfaron, faillit s'écrier Nechtanoff du haut de sa fenêtre. Mais en ce moment, la porte de sa chambre s'ouvrit, et à sa grande surprise, il vit entrer Markelov. Chapitre 10. Nechtanoff se leva pour aller à sa rencontre. Markelov marcha droit à lui, et sans saluer ni même sourire, lui dit « Vous êtes bien Alexis Dmitrich Nechtanoff, étudiant de l'université de Saint-Pétersbourg ?»« Parfaitement, » répondit Nechtanoff. Markelov prit dans sa poche de côté une lettre décachetée. « En ce cas, lisez ceci. C'est de la part de Vassili Nikolaïevitch, » ajouta-t-il en baissant la voix d'une façon significative. Nechtanoff ouvrit la lettre et la lut. C'était une espèce de circulaire semi-officielle, dans laquelle Serge Markelov était recommandé comme un des nôtres, digne de toute confiance. Puis suivait une instruction sur la nécessité immédiate d'une entente commune et sur la propagande des idées connues. Cette circulaire était d'ailleurs adressée aussi à Nechtanoff, comme à un homme digne de toute confiance lui aussi. Nechtanoff tendit la main à Markelov, lui offrit un siège et s'assit lui-même. Le visiteur, avant de prononcer un seul mot, alluma une cigarette. Nechtanoff suivit son exemple. « Avez-vous déjà eu le temps d'entrer en relation avec les paysans d'ici ?» demanda Markelov. « Non, pas encore. Êtes-vous arrivé depuis longtemps ?»« Depuis bientôt 15 jours. »« Vous avez beaucoup d'occupations ?»« Pas trop. » Markelov toussa d'un air de mauvaise humeur. « Il n'y a guère à compter sur les paysans d'ici, » continua-t-il. « ce sont des gens nuls. Il faudrait les instruire. La pauvreté est grande parmi eux, et il n'y a personne pour leur expliquer les causes de cette pauvreté. Mais, autant qu'on peut en juger, les anciens serfs de votre beau-frère ne sont pas si misérables, objecta Nejdanov. Mon beau-frère est un finaud, passé maître dans l'art de jeter de la poudre aux yeux. Les paysans d'ici ne comptent pas, mais il a une fabrique. Voilà où nous devons concentrer nos efforts. Un coup de pioche dans cette fourmilière, et vous verrez comme tout ça remuera. Avez-vous des brochures? Oui, mais pas beaucoup. Je vous en procurerai. Mais quelle négligence! Nejdanov ne répondit pas. Markelov resta un moment silencieux, en lançant par le nez la fumée de sa cigarette. Quel gredin pourtant que ce Kalomeitsev, dit-il tout à coup. Pendant le dîner, j'ai eu envie de me lever, d'aller droit à ce monsieur et de planter des gifles sur son insolent museau pour que cela serve de leçon aux autres. Mais non, par le temps qui court, il y a des choses plus importantes que de rosser un gentilhomme de la chambre. Ce n'est pas l'heure de se fâcher contre les imbéciles qui disent de méchantes paroles. Il s'agit de les empêcher de commettre de mauvaises actions. Nejdanov hocha la tête affirmativement, et Markelov se remit à fumer. Parmi toute la valetaille des Dvoroviers, reprit-il de nouveau, il y a ici un gaillard solide. Non pas votre Ivan, celui-là n'est ni chair ni poisson, mais un certain Cyril qui est buffetier. Ce Cyril était connu pour un ivrogne fini. Faites attention à lui, c'est un franc riboteur. Mais nous ne sommes pas là pour faire les délicats. Et que dites-vous de ma sœur? Ajouta-t-il brusquement, en relevant la tête et en fixant sur Nejdanov le regard de ses yeux jaunes. Celle-là est encore plus rusée que mon beau-frère. Qu'en dites-vous? Je dis que c'est une charmante et très aimable dame. Et de plus qu'elle est bien jolie. Vous avez une manière si raffinée de dire les choses, vous autres, messieurs de Pétersbourg. Je vous admire. Et que dites-vous de... Markelov fronça le sourcil, son visage se renfrogna. Il n'acheva pas la phrase commencée. « Je vois, reprit-il, que nous aurons beaucoup à causer ensemble, mais non pas dans cette chambre. Qui diable sait s'il n'y a pas quelqu'un qui nous espionne derrière la porte ? Écoutez, c'est aujourd'hui samedi. Demain, je suppose, vous ne donnez pas de leçons à mon neveu, n'est-ce pas ? J'ai une répétition avec lui, demain, à 3 heures. » « Une répétition ? Tout juste comme au théâtre. » « Ce doit être ma sœur qui invente ces expressions-là. Mais peu importe. Voulez-vous partir tout de suite? Ma propriété n'est qu'à 10 verstes d'ici. J'ai de bons chevaux qui trottent ferme. Vous passerez chez moi la nuit et la matinée de demain, et je vous ramène ici avant 3 heures. Consentez-vous? Comme il vous plaira, répondit Nejdanov. » Depuis l'arrivée de Markelov, Nejdanov était dans un état de surexcitation et de gêne. Ce rapprochement inopiné le troublait. Et pourtant, Markelov lui inspirait de la sympathie. Il sentait, il voyait que cet homme, probablement assez borné, était certainement honnête et fort. D'autre part, cette étrange rencontre dans le taillis, cette déclaration inattendue de Marianne... « Allons, c'est bien, » s'écria Markelov. « Préparez-vous, et moi je vais donner ordre qu'on attelle le tarantas. Je suppose que vous n'avez pas de permission à demander au maître de la maison. Je les avertirai. » Il me semble que je n'ai pas le droit de m'éloigner sans cela. Ne vous inquiétez pas, répliqua Markelov, j'arrangerai la chose. En ce moment-ci, ils jouent aux cartes. Ils ne remarqueront pas votre absence. Mon beau-frère se croit un homme d'État, et il n'y a qu'une chose pour lui, c'est qu'il joue très bien aux cartes. Après tout, il y a bien des gens qui sont arrivés par cette porte-là. Tenez-vous prêt, je vais tout préparer. Markelov s'éloigna. Une heure après, Nejdanov était installé à côté de lui, sur un grand coussin de cuir, dans un large tarantas, très vieux et très évasé, mais extrêmement commode. Un cocher microscopique, assis sur un bout de planche, sifflotait sans cesse. Cela ressemblait à un gentil gazouillement d'oiseau. La troïka des chevaux pie aux queues et aux crinières tressées courait rapidement sur la route unie. Et, sous les premières ombres de la nuit tombante, ils étaient partis à 10 heures sonnant, ils voyaient glisser d'un mouvement uniforme, en arrière ou en avant, selon la distance, les arbres, les buissons, les champs, les ravins et les prés. Le petit domaine de Markelov, qui ne contenait que 200 desiatines, hectares, et qui rapportait environ 700 roubles de revenus annuels, s'appelait Borzionkovo. Il était situé à 3 verstes du chef-lieu, dont le domaine de Sipiagin était éloigné de 7 verstes. Pour arriver à Borzionkovo, il fallait passer à travers la ville. Les nouveaux amis n'avaient pas eu le temps d'échanger 50 mots lorsqu'ils aperçurent devant eux les chétives maisonnettes des faubourgs, avec leurs toits de planches à moitié effondrés et les taches de lumière jaune que faisaient les fenêtres disjointes. Puis les pavés de la ville résonnèrent sous les roues du tarantas qui se mit à bondir, heurté, précipité de droite à gauche. Puis commencèrent à glisser devant eux, en sautillant à chaque chaos, les ineptes maisons à frontons des marchands, les églises à colonnes, les auberges. C'était la veille d'un dimanche. Il n'y avait guère de passants dans les rues, mais en revanche, les cabarets regorgeaient. On entendait sortir de là des voix rauques, des chansons avinées, mêlées aux sons nasillards des accordéons. Lorsqu'une porte s'ouvrait brusquement, on recevait en plein visage une bouffée de chaleur malpropre, mêlée à l'odeur rude de l'eau-de-vie et au reflet des lampions. Devant la porte de la plupart des cabarets étaient arrêtés des télègues de paysans, attelés de haridelles ventrues et à longs poils, qui, penchant humblement leurs têtes ébouriffées, semblaient dormir. Parfois on voyait un paysan tout débraillé, la ceinture défaite, coiffé de son bonnet d'hiver, dont le fond, pareil à un sac, lui tombait sur le dos. On le voyait sortir d'un cabaret, appuyer sa poitrine à un brancard et rester là immobile, en promenant faiblement autour de lui ses mains tâtonnantes, comme pour chercher quelque chose. Ou bien c'était un ouvrier de fabrique, maigre et malingre, la casquette de travers, les pieds nus, ses bottes étaient restées en gage au cabaret, qui faisait quelques pas indécis, s'arrêtait, se grattait la nuque, et avec une exclamation soudaine, revenait sur ses pas. « Voilà ce qui tue le paysan russe, l'eau de vie, » dit Markelov d'un air sombre. « C'est pour noyer le chagrin, petit père, » répondit sans se retourner le cocher qui, en passant devant chaque cabaret, cessait de siffler et avait l'air de s'absorber en lui-même. « Marche, marche !» répliqua Markelov en secouant énergiquement le collet de son propre manteau. Le tarantas traversa la grande place du marché, toute remplie d'une odeur de choux et de nattes de tilleul, passa devant la maison du gouverneur, flanquée de guérites aux raies blanches et noires, devant le poste de police surmonté d'une tour à signaux, suivit le boulevard récemment planté d'arbres tout jeunes et à déjà demi-mort, longea le Gostin Voïdvor, qui retentissait d'aboiements de chiens et de grincements de chaînes, atteignit enfin la barrière après avoir dépassé un long, très long convoi de chariots qui s'était mis en marche dès minuit pour profiter de la fraîcheur nocturne. Se retrouva de nouveau en plein air libre et recommença à rouler d'une allure plus rapide et plus régulière sur le grand chemin bordé de saules. Markelov, car il nous faut bien parler un peu de lui, était de 6 ans plus âgé que sa sœur, Madame Sipiagin. Élevé à l'école d'artillerie, il en était sorti officier, mais il avait donné sa démission avec le grade de lieutenant par suite des désagréments qu'il avait eus avec son chef, un Allemand. Depuis cette époque, il abhorrait les Allemands, surtout les Allemands de Russie. Sa démission l'avait brouillé avec son père, qui ne l'avait pas revu jusqu'à sa mort et qui lui avait laissé le petit bien où il demeurait depuis. Il avait fréquenté à Pétersbourg des hommes intelligents aux idées avancées qui lui inspiraient une sorte de vénération et qui avaient donné à son esprit sa tournure définitive. Il lisait peu et presque exclusivement des écrits politiques, ceux de Herzen en particulier. Ayant gardé ses allures militaires, il vivait en spartiate et en moine. Quelques années auparavant, il s'était passionnément épris d'une jeune fille, mais elle l'avait trahi de la façon la moins cérémonieuse en épousant un aide de camp, un Allemand encore. Markelov s'était mis à détester les aides de camp. Il avait essayé d'écrire des articles spéciaux sur les défauts de l'artillerie russe, mais n'ayant pas le moindre talent d'exposition, il ne put mener un seul article à bonne fin, ce qui ne l'empêcha pas de continuer à noircir de sa grosse écriture maladroite et enfantine de vastes pages de papier d'écolier. C'était un homme énergique, obstiné, d'une intrépidité désespérée, ne sachant ni pardonner ni oublier, constamment blessé pour son propre compte ou pour celui de tous les opprimés, et prêt à tout. Son esprit étroit s'était ramassé sur un seul point, ce qu'il ne comprenait pas n'existait pas pour lui. Mais il méprisait, il haïssait la fausseté et le mensonge. Avec les gens de la classe élevée, les réacs comme il les appelait, Il était brusque et même grossier. Avec les gens du peuple, simple. Avec les paysans, affable comme avec des frères. C'était un assez médiocre propriétaire. Il roulait dans sa tête des plans socialistes qu'il n'avait jamais pu réaliser, pas plus qu'il n'avait pu terminer ses articles sur les défauts de l'artillerie russe. Règle générale, rien ne lui réussissait. Ses camarades de régiment l'avaient surnommé « pas de chance ». Caractère franc et loyal, nature passionnée et malheureuse, il pouvait, à un moment donné, se montrer impitoyable, sanguinaire, mériter le nom de monstre. Et il était capable aussi de se sacrifier sans hésitation et sans retour. À trois verstes de la ville, le tarantas pénétra tout à coup dans la molle obscurité d'un bois de tremble. Chuchotement de feuilles invisibles et frémissantes, amères et fraîches senteurs de l'air immobile, vagues éclaircies en haut, ombres épaisses et emmêlées en bas. C'était bien un bois que traversaient les voyageurs. La lune, rouge et large comme un bouclier de cuivre, venait de surgir au-dessus de l'horizon. À peine sorti de l'ombre des arbres, le tarantas se trouva devant les bâtiments d'un petit domaine. Sur la façade d'une maison basse, dont le toit cachait le disque de la lune, trois fenêtres éclairées se détachaient en rectangle lumineux. La porte cochère, toute grande ouverte, avait l'air de n'avoir jamais été fermée. On entrevoyait dans la cour, à travers l'obscurité, une haute kibitka, derrière laquelle étaient attachés deux chevaux de poste blancs. Deux chiens blancs aussi, sortis on ne sait d'où, remplirent les airs de leurs aboiements sonores, mais point hostiles. Il y eut un va-et-vient dans la maison. Le tarantas s'arrêta devant le perron, et, cherchant du bout de sa botte, non sans effort, le marchepied placé selon la coutume des forgerons domestiques à l'endroit le plus incommode, Markelov descendit du véhicule en disant à Nechtanov « Nous voici arrivés, et vous allez voir ici des hôtes très connus de vous, mais que vous ne vous attendiez pas du tout à rencontrer. Passez, je vous prie. »